Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et du lundi au jeudi, vous le savez, de 20h à 21h, on débrief l'actu tech avec nos experts, vous le savez. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Marjorie Paillon. Salut Marjorie.
Une experte, s'il te plaît.
Mais bien sûr, ouais. Mais comme c'était au pluriel, c'est pour ça.
Expert.te.s
à la fin, puisqu'il y en a plusieurs. Notre experte, donc, Marjorie Paillon. Merci d'être là, Marjorie.
Merci à toi.
Michel Lévy-Provençal est à tes côtés. Bonsoir, Michel.
Bonsoir, François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness, et heureux, enfin, j'allais dire heureux, possesseur pour l'instant. On verra après si on rajoute heureux. Possesseur.
On va aller un peu, là.
Du petit Rabbit, ce petit gadget bourré, boosté à l'intelligence artificielle qu'on avait évoqué plusieurs fois dans Tech & Co. On va en parler dans quelques instants. Tu vas essayer même de nous faire une démo en direct ce soir. Vous allez voir, c'est pas gagné. Hein. Et Frédéric Simotel. Salut Fred.
Salut François, salut à tous.
Et beaucoup plus qu'un gadget, hein, c'est vraiment notre référence à tous.
Absolument.
On est d'accord dans le monde de la tech.
L'ultime référence.
Journaliste à BFM Business. Donc, le Rabbit, ce sera pour tout à l'heure. On va parler d'Alexa aussi. Vous savez qu'il y a une espèce de guerre des assistants vocaux qui est en train de se tramer. Ces assistants vocaux qui, petit à petit, alors ça prendra peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ils vont être boostés à l'IA générative pour être un petit peu plus intelligents que ceux qui sont aujourd'hui. Et ça va être le cas d'Alexa. Mais Alexa pourrait nous faire payer, en fait, le fait d'avoir un Alexa plus intelligent. Est-ce que ça va marcher? Ben, on verra ça. Et puis, on parlera aussi de l'évolution de Starlink, qui a sorti une toute petite antenne faite pour les nomades, qu'on peut mettre dans un sac à dos, et qui vous permet tout simplement d'avoir une connexion Internet n'importe où, finalement, parce que ça fait aussi routeur Wi-Fi. C'est ça qui est top.
Ouais.
On va en reparler dans quelques minutes. Mais, pour débuter, Apple, donc, puisqu'Apple est dans le viseur de la Commission européenne, dans le cadre de son enquête sur le fonctionnement de l'App Store, Bruxelles vient à titre préliminaire de confirmer les soupçons de pratiques anticoncurrentielles. Même Thierry Breton a fait un petit tweet ce matin sur le sujet. La boutique d'application du géant est suspectée d'enfreindre le DMA. La firme de Cupertino encourt une amende énorme. Les explications d'Alexandra Pagé et après, évidemment, on va commenter tout cela.
40 milliards d'euros, soit 10% de son chiffre d'affaires mondial, c'est le montant maximal qui peut être infligé à Apple. Du jamais vu, la commission lui reproche de ne pas se conformer au DMA. Certes, l'entreprise a ouvert l'iOS à plus d'applications non estampillées par ses soins. Elle permet aussi aux développeurs de ne pas passer uniquement par l'App Store, mais le système est encore si fermé que passer outre les solutions maison se révèle être la croix, la bannière, que ce soit pour les développeurs ou les utilisateurs. Apple, qui réfute toute pratique anticoncurrentielle, peut désormais exercer ses droits à la défense en ayant accès au dossier et répondre aux conclusions préliminaires. Mais si celles-ci sont confirmées, Bruxelles pourrait rendre une décision définitive de non-conformité d'ici à la fin mars 2025. La firme s'est déjà vue infliger en mars dernier une amende de près de 2 milliards d'euros pour des motifs similaires. Le géant californien fait systématiquement appel, mais cette fois la réponse du berger à la bergère est d'une autre nature. Apple a invoqué des difficultés posées par le DMA pour retarder le développement de ces outils d'intelligence artificielle en Europe.
Voilà, la guerre se poursuit entre l'Union européenne et les géants américains, d'une manière générale, et là, plus précisément, Apple, qui visiblement ne répond pas aux obligations du DMA. Le DMA qui a été...
On dit la réponse du berger à la bergère, c'est la réponse du berger au loup, plutôt.
Oui, c'est ça, exactement. donc, Apple se retrouve un peu dans la tourmente avec cette histoire-là. Ça va être intéressant d'avoir votre avis là-dessus, parce que le DMA était plein de promesses. Mm-hmm. On voit qu'Apple... Évidemment, il va avec des pincettes, parce que c'est quand même ouvrir un trésor de guerre que de laisser l'App Store comme ça ouvert à la concurrence. Donc, ils essaient de trouver en fait des parades qui font que tout le monde est dissuadé d'y aller. Parce que finalement, c'est ça, et c'est ce qu'Apple reproche finalement. Enfin, c'est ce que la Commission européenne reproche à Apple, Marjorie.
Oui, et tu te souviens, j'ai l'impression qu'on a passé une grosse partie de la saison quand même à commenter tous ces épisodes de mise en conformité pré-application de DMA, post-application du DMA et encore aujourd'hui sur les enquêtes préliminaires. Apple n'est pas le seul concerné, en l'occurrence il y a 5 enquêtes préliminaires qui ont été ouvertes par la Commission européenne et par les services surtout de Margrethe Vestager, l'EVP chargée de la concurrence, qu'il est encore pour quelques semaines. Thierry Breton aussi, tu sais que cette semaine il y a quelque chose de très important qui se joue à Bruxelles et le timing n'est pas innocent non plus. Tu as un Conseil européen qui, post élection parlementaire européenne, va commencer avec les États membres à passer en revue les candidats et candidates candidate au poste de commissaire et de vice-président vice-présidente de cette commission. Donc il y a quand même un moment
oui,
où
bien sûr.
Il y a aussi un objet de communication et de soft power tout de la fait. Part des commissaires de dire, regardez, on a voté des régulations, elles sont là, on les met en application et on ouvre des enquêtes dès qu'on le peut. Après, il faut juste revenir à l'essence de ce qu'est le DMA. C'est ni plus ni moins pour la Commission européenne et pour l'Europe le fait de dire, Big Tech, on vous oblige à vous ouvrir à la concurrence, un point c'est tout. Et c'était aussi, peut-être plus dans l'esprit de Margrethe Vestager en l'occurrence que de Thierry Breton, une façon de se dire on va essayer de débusquer des antitrust. Avant d'aller jusqu'à l'antitrust et de rentrer dans des procédures où on met des années à récupérer les amendes qu'on inflige à plusieurs de ces plateformes.
Parfois on les récupère même pas.
Et parfois même pas, comme on l'a vu dans un cas avec Google il y a quelques temps. Finalement, on va donner des règles claires du jeu dès le départ. La compliance va devoir être là de la part de ces entreprises-ci pour éviter justement de se retrouver dans cette course à l'échalote sur les amendes et sur les démantèlements futurs.
Sauf que là, il est question d'une amende.
Complètement. Mais manque de bol. Alors, parce que c'est l'application stricto sensu de ce que dit le DMA en matière de sanctions. Première infraction, 10% du chiffre d'affaires mondial. Deuxième infraction, 20% du chiffre d'affaires mondial. S'il y a une troisième récidive, c'est démantèlement pur et simple. On n'en est pas encore là. Et Apple, à partir du moment où l'enquête préliminaire là est ouverte et où la commission a justement avisé Apple de ce qu'ils encourent, ils ont un an maintenant pour réussir à faire la preuve du contraire. Donc ça va se jouer jusqu'en mars 2025.
Le timing, c'est donc voilà, en fait, l'Union européenne indique à Apple qu'elle n'est pas satisfaite du DMA. Voilà. Donc là, Apple doit répondre à l'Union européenne et à 12 mois, en fait, pour dialoguer avec l'Union européenne, pour faire évoluer tout cela. Et si ce n'est pas le cas, dans 12
dans
mois...
Dans ces cas-là, il y a 40 milliards à la clé.
Il y a 40 milliards à la clé, puisque c'est 10%, je crois,
du chiffre d'affaires mondial.
Et puis ça peut aller, ce que disait Marjorie...
En fonction de la gradation des sanctions et des infractions.
Après, Apple, ils vont tout faire pour enchaîner les recours, pour éviter toutes les sanctions. Enfin, pour moi, Apple, ils sont en train de tester. Hein. Ils disent, tiens, là, on va pousser le curseur tout en haut.
Évidemment.
Ah, ben, on va revenir un peu, on va pousser l'autre curseur. Et puis comme ça, et puis on va tenir. Eux, ils espèrent aussi un peu, voir un peu comment vont se dérouler les élections, comment ça va se passer aussi chez eux, parce qu'il y aura un impact aussi, forcément. Donc, voilà, le jeu... après, voilà, l'Europe, après, on discutera un peu quels sont les effets pour les consommateurs que nous sommes.
Oui, ils ne sont pas anodins, mine de rien.
Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans ce jeu-là, qui est le fait de se dire que, encore une fois, comme tu le dis si bien, Fred, chacun est en train de tester ses limites, quelque part. C'est un peu un enfant de 2 ans qui dit à ses parents, non. En fait, pas, je ne vais pas le faire. Et qui essaie justement de voir jusqu'où l'autorité parentale ou régulatrice en l'occurrence va le laisser aller ou pas. Donc on est en train de jouer dans ce bras de fer, d'être dans ce bras de fer continu qui aurait dû s'apaiser à partir du moment où le DMA était entré en application pure et simple. C'est toujours pas le cas. Après, l'argumentation, elle est très maligne de la part d'Apple. Moi, je l'ai trouvé assez malin dans la stratégie, qui n'a pas dévié depuis le début, qui est de dire, OK, vous voulez qu'on s'ouvre à la concurrence, nous, ça nous pose des problèmes d'interopérabilité sur les devices, de sécurité pour les data de nos utilisateurs et nos utilisatrices, et de privacy. À partir de là, vous faites ce que vous voulez.
Michel.
Je pense qu'Apple est dans une position très délicate. À la fois en Europe, et on le voit avec cette affaire de DMA, avec le Vision Pro qui décolle pas, avec l'IA dans laquelle ils sont extrêmement en retard, avec une explosion des prix aussi des devices et sur le marché chinois, une concurrence qui est féroce, je suis de plus en plus inquiet pour Apple. Pour ce qui est de la commission, tu disais un enfant de 2 ans, je ne sais pas qui est l'enfant de 2 ans. Est-ce que c'est Apple ou est-ce que c'est la commission? Parce que c'est un deal perdant-perdant en réalité. C'est un deal perdant pour Apple, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un deal perdant pour les Européens. Et on le voit, les produits américains aujourd'hui ne sortent plus en Europe.
On en parlera, ça sera le deuxième chapitre de notre sujet, parce que bien évidemment ça va avoir des conséquences sur l'avenir de notre iPhone.
Mais c'est le cas, alors on va en parler pour iOS, mais ça a été le cas pour d'autres produits. Ça a été le cas, par exemple, prenons un exemple, les glaces, les Meta Glasses, tu sais,
les Ray-Ban Meta,
qui étaient très basiques au début. Quand tu les achètes en Europe, elles restent très basiques. Aux États-Unis, ils ont accès à l'IA de Meta. En Europe, on n'y a pas accès. Et il est probable qu'on n'y ait pas accès encore pendant un bout de temps. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on est soumis au DMA et au risque pour ces grandes entreprises. Donc, qui perd dans cette affaire ? À une heure où on est en train de vivre une révolution de l'IA, où les entreprises peuvent gagner en compétitivité, où on doit former massivement les actifs, on se retrouve dans une situation où, bah, finalement, l'Europe n'a pas accès aux meilleures technologies américaines et nous n'avons pas l'équivalent européen. Parce que, avec quoi on remplacera la nouvelle version ?
Pas d'alternative.
Il n'y a pas d'alternative. Donc on est perdant-perdant.
Juste pour qu'on explique bien ce qui se passe, parce qu'on parle évidemment de ce DMA d'Apple et l'Union européenne, mais ce que reproche en fait l'Union européenne à Apple, c'est en fait cette taxe. Vous savez que les développeurs doivent payer s'ils dépassent 1 million de téléchargements, même dans les stores alternatifs. Et en fait, l'Union européenne dit que ce n'est pas possible, parce que 50 centimes, c'est beaucoup trop. En fait, c'est une question aussi peut-être de jauge, parce que... je comprends ce que tu dis, on va y revenir dans un instant sur l'IA et Apple Intelligence qui ne pourrait pas arriver en Europe. Mais est-ce qu'on doit laisser faire Apple ou est-ce qu'on doit essayer de trouver en bonne intelligence un accord en fait qui puisse satisfaire tout le monde.
Là il y a un peu de mauvaise foi quand même parce que de la part d'Apple, on dit, parce qu'ils disent les développeurs. Alors les développeurs ne peuvent pas fournir d'infos sur les prix de leurs produits hors l'App Store. Ils peuvent pas communiquer pour promouvoir des promos. Donc il y a quand même, et la seule solution c'est de mettre un lien externe, donc qui est plus compliqué, c'est pas donc Apple là je trouve a fermé un peu vite. Alors il pousse les curseurs à fermer un peu vite tout ça. Moi, je serai Apple, je lâcherai un peu la bride, je regarderai un peu quel est le chiffre d'affaires qui s'en va. Est-ce que c'est 10 milliards ou est-ce que c'est...
marché européen, quand même.
Par rapport aux applis, quelles sont les applis Et puis, je ferai de la pub derrière, à fond, en disant « Ok, vous voulez aller dans des trucs non sécurisés, tout ça ?»
Allez-y,
c'est le démantèlement pour Apple. Est-ce qu'on ira jusque-là ou pas ?
Non, mais là déjà, on a déjà quand même, avant d'aller jusqu'au démantèlement, qui est vraiment la procédure de stade. Mais c'est quand même une procédure
par rapport
de stade.
Par rapport
5,
aux développeurs, de laisser les développeurs et les utilisateurs leur dire OK, on ouvre, allez-y, mais alors moi je vous dis, est-ce qu'il faut leur faire signer des assurances ? Vous faites des décharges à chaque fois, comme quoi si vos données disparaissent, moi je suis. Et là je peux te dire que tu vas. Parce qu'on oublie, je trouve que dans tout ça, on oublie un peu vite l'utilisateur. Ouais. C'est-à-dire, discuté tout à l'heure avec François, on dit, mais si j'ai envie que mes données soient disponibles, soient utilisées, tout ça.
Est-ce que finalement c'est grave ?
C'est la discussion que c'est vrai, on avait avec Fred tout à l'heure, qu'on nous laisse le choix. Si on a envie d'être on va dire sous une protection du DMA, ok, mais à ce moment-là on perd des fonctionnalités, mais en revanche il faudrait qu'on nous laisse le choix. Si on a envie de partager nos données, si on a envie d'être un peu comme un Américain, parce que c'est un peu ça, et ben qu'on l'accepte et qu'on puisse accéder à des fonctionnalités qui seraient interdites si le DMA entre en jeu.
Mais ça voudrait dire, en termes de régulation, là du coup c'est aussi de l'interop, mais régulatoire, qu'il faut que ton RGPD se plug à ton DMA ou ton SA, ou que tu aies un opt-in ou un opt-out, donc un consentement de la part de toi, utilisateur ou utilisatrice, sur le fait de jouer...
Mais comme c'est le cas aujourd'hui avec le RGPD,
de demander au service, à la plateforme, au constructeur de device sur lequel tu as porté ton choix, de se conformer ou pas. Là, tu rentres dans un casse-tête assez phénoménal.
Je ne suis pas sûr que ce soit un casse-tête. Non. En réalité, si on le fait, on va arriver exactement au même point auquel on est arrivé avec le RGPD.
Tout à fait.
Avoir un pop-up partout, sur toutes les apps, et à devoir cliquer une fois de plus avant d'avoir accédé. Donc c'est pour ça que c'est assez contre-productif, de mon point de vue. C'est toute cette démarche qui prend du temps, qui prend de l'argent, qui prend des ressources phénoménales pour un résultat qui est perdant-perdant, à la fois, et c'est aussi perdant, à mon avis, à terme pour la Commission, parce que on a aussi besoin de la Commission pour d'autres choses, et en l'occurrence pour créer les conditions d'innovation, pour créer les conditions.
Mais ils sont pas là pour ça. La commission.
De financement.
Et la commission, elle n'est pas là pour ça. La commission, c'est une instance qui garantit la libre concurrence entre les entreprises qui opèrent sur le sol européen et sur le marché américain. La commission, tu peux pas leur demander ça. Le Parlement, tu peux peut-être. La commission, c'est pas leur
tâche. Non, mais l'idée, c'est que l'Europe ne soit pas là que pour réguler, qu'elle soit là aussi pour créer les conditions de l'innovation.
Je vous comprends, chers amis, mais c'est juste pas leur boulot.
Qu'on ait une alternative européenne.
Non, puis on voit le souci après d'avoir un marché hyper morcelé, parce que qu'est-ce qui empêchera Apple après, pourquoi pas, d'aller négocier pays par pays ? Alors on dira oui, non, il y a la réglementation européenne. Nous disons, allez, on va aller voir les Estoniens, on va dire si vous seriez prêts, vous. Ah ben on a négocié avec les pays et je pense qu'ils sont déjà en train de faire le petit tour de tout ça. On reparlera de l'alternative après. Et puis je pense que, pour moi, ils vont même mettre en place des histoires d'assurance. C'est-à-dire, ok, vous allez sur l'App Store, là, sur le concurrent de l'App Store, par contre, il y a une petite assurance, une petite décharge et tout ça. Quand tu vas avoir ça signé en te disant, décline toute responsabilité, etc., 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 tu vas dire, finalement, à part Spotify, Epic, les grands, le reste, tu vas aller.
Alors, j'aimerais qu'on enchaîne sur le deuxième sujet qui est intimement lié à tout ça, c'est qu'Apple a réagi justement aux prochaines mises à jour qu'il y aura sur l'iPhone et notamment tout ce qui touche à l'intelligence artificielle qui a été annoncé en grande pompe à la WWDC. Apple dit ceci: en raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Market Act, donc le DMA, nous ne pensons pas être en mesure de déployer trois fonctionnalités: iPhone Mirroring, les améliorations de SharePlay Screen Sharing et Apple Intelligence pour nos utilisateurs de l'Union Européenne cette année. Cette année, d'accord. Donc, on ne sait pas trop.
On n'était pas complètement prêt.
Voilà. En plus, ils n'étaient pas prêts. Mais malgré tout, ça met une pression finalement dans tout ce deal, parce que on a l'impression qu'il y aura des utilisateurs d'iPhone à deux vitesses.
Mais complètement.
Les Américains ou même les utilisateurs d'autres pays en dehors de l'Europe, et l'Europe qui, plombée par toute cette réglementation, risque de passer à côté d'innovations qui, au quotidien, pourraient nous améliorer notre confort de vie. C'est ça aussi le problème global.
Michel. Bien sûr, les conséquences sont importantes pour les utilisateurs, mais pas que pour les utilisateurs, pour les entreprises européennes. On est en train, potentiellement, de perdre en productivité. Prenons l'exemple de Gemini de Google. On n'a pas le même niveau d'accès à Gemini en Europe et aux États-Unis. Prenons l'exemple de Meta. Aujourd'hui, on n'a pas accès à un certain nombre de fonctionnités qui existent.
Mais tu parlais des Ray-Ban Meta.
Alors, les Ray-Ban Meta. Les seuls qui ont réussi, mais probablement parce que ce sont encore les cow-boys de la Silicon Valley, à passer outre et à prendre le risque, c'est OpenAI. OpenAI qui offre à l'Europe un certain nombre de l'ensemble de ces fonctionnalités de manière miroir aux États-Unis. Donc, si seulement on avait une alternative européenne à l'écosystème Apple, ça aurait été formidable, une occasion, une opportunité de développer un marché européen avec des champions européens. Mais encore une fois, nous ne l'avons pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec une année, deux années de retard par rapport à des acteurs américains, mais pas que américains, parce que dans le sud global, ils utilisent ces technologies. Ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Donc on est en train de perdre en compétitivité.
Oui. Et puis je pense que l'Union européenne risque de perdre en popularité dans ce sujet-là, parce que il va y avoir des utilisateurs européens qui vont se dire: attends, moi je suis frustré parce que je ne peux pas utiliser certaines fonctionnalités.
Mais c'est là où je vous disais, messieurs, que la stratégie d'Apple, elle est brillante en matière d'affaires publiques et lobbying.
Ils mettent la pression
là
sur.
Où, tout à l'heure, on se disait peut-être qu'on ne prend pas en faire en compte l'avis finalement des utilisateurs et des utilisatrices, mais bien sûr que si, c'est ce que fait Apple avec justement cette décision de différer le lancement de ces produits-là dans iOS 18 en Europe, parce que il sait très bien que là, il prend ses Apple fanboys et fangirls à témoin en leur disant: on ne peut pas déployer, risque réglementaire. Pour l'instant, on ne sait pas comment se mettre en compliance. Donc, on ne va pas le faire, sinon, on va peut-être vous mettre vous-même dans l'embarras. Et il y a des problèmes d'interopérabilité, comme d'hab. Ce sont les mêmes arguments. Problème d'interopérabilité sur les devices, problème de sécurité des datas et problème de privacy.
Non, et puis je pense qu'on parlait des incertitudes réglementaires, c'est exactement ça. Est-ce que je continue à me lancer, même en termes d'investissement, de dire, nous, on va arrêter d'investir là, parce qu'on n'est pas trop sûr. Imaginez, dans le futur, vous serriez encore plus la vis et obligé de pour un iPhone vendu, il faut tout de suite proposer un Android. Enfin, je sais pas, on peut aller beaucoup plus loin dans la mise en place de la concurrence. Et moi, à mon avis, Apple, ils ont raison de pousser le truc un peu loin, parce qu'il y a un moment, ils savent pas jusqu'où peut aller ce. C'est si clair. Ça marche là, ils vont se dire, on va aller plus loin.
Alors, entendons-nous bien, on n'est pas contre le fait d'avoir une réglementation, mais en fait. La question, c'est
l'utilisateur.
Voilà, c'est ça. Où placer le curseur pour que malgré tout, on puisse ne pas être frustré de ne pas pouvoir bénéficier de certaines nouvelles fonctionnalités qui pourraient être bridées justement à cause du DMA.
Il y a une hypothèse aussi cette fois-ci qui est peut-être un peu moins cynique de la part d'Apple, qui est juste un problème technique. C'est que pour déployer les fonctionnalités d'IA à l'échelle européenne, il faut beaucoup de ressources. Et en l'occurrence, avec leur technologie qui doit garantir quand même un peu de privacy, ils ont déployé ce qu'ils appellent le cloud privé. C'est un La privacy n'est plus sur le device, elle est quand même sur un cloud, mais un cloud sécurisé. Il faut un cloud européen pour pouvoir le faire. Et donc, est-ce qu'on a les ressources en Europe pour pouvoir porter toute la puissance nécessaire pour l'ensemble de la population européenne qui utiliserait les devices? C'est une hypothèse, hein, on n'en est pas sûr. Donc peut-être qu'en différant, il se donne aussi la possibilité de déployer les solutions techniques qui permettraient de résoudre le problème
pour le marché européen. Que je dis que moi, à un moment, ça tombe bien.
Oui, ça tombe très bien.
On voit que c'est pas prêt. On en a parlé la semaine dernière. On s'est rendu compte qu'Apple, finalement, ils ont fait des belles annonces et tout ça, mais tout va être étalé. Et puis, cœur langue anglaise. Ah bon, d'accord.
Toutes les raisons sont bonnes à prendre pour pouvoir annoncer qu'ils vont différer.
Ouais, bien sûr.
Et puis, par l'instant, les autres y vont. Hein. Google commence à sortir en plein de langues, même dans toutes les langues indiennes. Enfin, bon, c'est assez.
Il nous reste 3 minutes. Dernier chapitre. Apple, en quelque sorte, c'est cette information aussi qu'on a appris là il y a quelques heures. Apple discuterait ou aurait discuté avec Meta pour utiliser ses modèles d'IA pour les intégrer dans Apple Intelligence. Alors, ça confirme une chose, c'est que Apple n'est pas rancunier par rapport à Meta, parce que c'est la guerre.
Et que Meta non plus.
Entre Zuckerberg, et surtout, c'est vrai, Mark Zuckerberg n'est pas rancunier. Cela dit, il y a peut-être beaucoup d'argent en jeu. Hein. Et puis surtout que cette Apple Intelligence, c'est un peu comme le browser, le moteur de recherche en fait du browser d'Apple, c'est qu'on peut choisir un peu son intelligence.
Mais c'est là où
on aurait pu avoir OpenAI, Gemini, mais donc Meta, pourquoi pas aussi.
C'est là où c'est passionnant, parce que du coup, c'est le paradoxe de mon argumentaire de tout à l'heure. Apple, brillantissime sur sa stratégie d'affaires publiques et sur le fait de prendre les utilisateurs et utilisatrices à témoin. Là, Apple dit, on veut que vous ayez le choix. On veut vous donner le choix de l'IA et du LLM que vous allez utiliser dans Apple Intelligence au sens large du terme. Et on vous offre du OpenAI, on vous offre du Gemini, on va aussi faire des contrats avec Perplexity, qui fait lui plutôt de l'IA dans la recherche. On va aussi vous offrir Llama. Avec Llama 3, peut-être même avec Meta en l'occurrence. Pour Apple, c'est malin parce qu'en fait, c'est quasiment commencer sur ces incertitudes réglementaires en Europe, mais qui pourraient se déployer dans d'autres pays, dont les États-Unis. Hein, ce n'est pas non plus totalement abscond de le penser. Le fait de se dire, on prépare nos armes pour pouvoir laisser le choix et pouvoir travailler suffisamment en amont l'interopérabilité qui leur est si chère. Mais dans le même temps, ce qu'on propose pour que ces big tech nous rejoignent et nous donnent, en gros, on fait de la R&D externalisée sur leur IA parce qu'on n'a pas su le faire nous, on n'a pas mis l'argent où il fallait au bon moment, au bon endroit. Ce qu'on leur propose, c'est pas de partager les revenus, on n'est quand même pas fou à ce moment-là, mais on va leur proposer, peut-être, en matière de business model, un abonnement. On va leur donner la possibilité de proposer un abonnement payant aux utilisatrices et utilisateurs Apple qui auront choisi leur LLM. Et après, évidemment, on se récupère sur les bénéfices.
Michel. Très vite, je pense que Apple a aussi besoin de diminuer sa dépendance à l'égard d'OpenAI.
Aussi.
Alors aujourd'hui, ils sont quand même pieds et poings liés à l'outil ChatGPT qu'ils ont intégré dans iOS. Donc, ils cherchent des alternatives pour être moins dépendant. Et donc Meta, qui est une bonne alternative, Llama 3, peut-être que demain, on aura un autre deal avec Anthropique, on ne sait pas.
Puis, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et puis aujourd'hui, ça coûte cher. Il faut trouver le bon business model hein, quand on est fournisseur de ces solutions. Et puis derrière, au-delà de l'innovation, des technos, tout ça, moi je trouve que je référençais un petit peu tous les avantages d'avoir ça. Qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir diversifier, personnaliser des services parce qu'on aura plusieurs types d'IA. On va pouvoir être compétitivité, avantage techno, optimiser l'expansion utilisateur, ça c'est dans l'ADN d'Apple. Sécurité et confidentialité, on en a suffisamment parlé. Création de valeur ajoutée, ben voilà, on a tout ça. Et puis, réponse à la demande du marché. Le marché, il veut plusieurs IA. On le voit aujourd'hui dans les entreprises avec qui on parle. Elles sont toutes, il n'y en a pas quand elles sont en contact avec des fournisseurs d'IA et d'IA générative, ils leur disent pas, ah non, moi je suis OpenAI. Non, on voit, ils proposent tous une gamme, hein. Microsoft propose de l'OpenAI, propose du Claude, propose du Mistral, ils sont tous en train de s'ouvrir parce que c'est le client qui doit avoir ce choix-là et Apple, c'est le choix qu'ils font pour leurs IA. Et en plus, je pense que ça vient, et ça, moi je continuerai à le dire, je pense qu'ils ont un tel retard. Alors ils l'ont un peu habillé avec Apple Intelligence, mais je pense qu'ils ont beaucoup beaucoup de retard dans ce domaine. Et là ils ont besoin des autres. Mais après ça coûte tellement cher aujourd'hui. On peut pas avoir l'IA qui va répondre à tout le monde. Et donc on est obligé d'intégrer tout le monde.
Après, alors,
au risque d'avoir des bénéfices qu'il va falloir partager, machin.
La question est-ce que l'utilisateur final va devoir choisir entre plusieurs large language model. Alors le choix il l'aura.
Mais selon l'application, il dira tiens pour choisir leur route.
Je vais plutôt aller.
Il y a déjà des portails qui existent qui disent quelle est l'IA la plus. Et il aura juste qu'à dire bah tiens, moi, pour des recettes de cuisine,
en fait, ChatGPT sera le best-seller et puis ceux qui veulent autre chose pourront avoir autre chose.
Il fait déjà ça.
Ouais, et c'est un peu du bring your own AI, tu vois, quelque part. Et finalement, pourquoi pas? C'est pas si mal. Et pour les big tech qui font confiance ou qui seraient en négociation avec Apple, c'est aussi la possibilité d'entrer dans des millions de devices partout dans le monde.
Et c'est ce que font les entreprises aujourd'hui. Elles disent j'ai un besoin, et en face, on dit ben tiens, pour tel besoin-là, c'est OpenAI, pour l'autre, c'est Claude, pour l'autre, c'est Mistral.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, 20h36, avec ce soir pour débriefer l'actu Marjorie Paillon, journaliste, Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness, et Frédéric Simotel. Après Apple, on change d'univers et on va s'intéresser à un produit qui a fait couler beaucoup d'encre. On se souvient, hein, Fred, on était au CES de Las Vegas et en fait tous nos petits camarades journalistes... Non, on ne l'avait pas vu, mais tout le monde parlait de ça parce que c'est en fait, je crois qu'il y a eu une espèce de je sais pas comment dire, en fait tout le monde parlait de ce produit là parce qu'on était dans un salon de tech au moment où il est sorti, en tous les cas où on commençait à avoir des exemplaires qui tournaient dans les salons. C'est assez intéressant. Bref, tout ça est monté un petit peu en mayonnaise et là visiblement la mayonnaise est en train de retomber, les amis, parce que ce Rabbit Air 1, tu l'as reçu il y a quelques temps de cela.
Je l'ai reçu il y a...
Alors c'était en précommande, il y a eu pas mal de retard sur les délais prévus.
Beaucoup de retard sur les délais prévus. J'ai failli annuler ma commande parce que vu les résultats des tests sur YouTube, c'était assez catastrophique. Et finalement, très honnêtement, j'ai pas pu annuler ma commande.
Donc
tu l'as reçu. Et il est là. Alors, comment vous dire ? Déjà, c'est un...
Alors, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, c'est un petit boîtier orange, voilà, avec une petite molette, un petit écran qui, à la taille quoi, d'un paquet de cigarettes, on va dire. Voilà, beaucoup plus fin.
Fisher Price, un peu.
Beaucoup plus fin.
Ouais, c'est un peu plus fin qu'un...
C'est plus carré aussi.
C'est plus carré.
Ouais, c'est un peu plus... C'est même pas un iPhone, c'est plus court qu'un iPhone, mais c'est un tout petit peu plus large, à peine plus large. Ça a surtout une molette... à droite, tout est en plastique, hein, plastique orange. Il y a une petite caméra qui est de très mauvaise qualité. Et puis, il y a un écran dont...
De très mauvaise qualité aussi.
Alors, il n'est pas super qualité, mais surtout, au départ, on se dit « Ah, super, un écran tactile !» Donc, en fait, il n'est pas du tout tactile.
Non.
Alors qu'en réalité, il est tactile. C'est-à-dire que dans certains modes d'utilisation,
il le devient.
L'outil devient tactile. Si je le tourne dans ce sens-là, j'ai un clavier qui s'affiche.
Voilà. Est-ce que tu peux tourner un peu plus l'appareil? Voilà, comme ça on le voit là.
Donc là, j'ai un clavier qui s'affiche. Ouais. Donc je peux taper et interagir avec. Et sinon, là, j'ai un petit lapin qui s'affiche et qui est prêt à interagir avec moi.
Voilà. Alors, donc Rabbit, le lapin, c'est l'assistant, c'est ton assistant. Hein,
c'est mon assistant, pas très efficace, mais c'est un assistant quand même. Et donc, il a deux modes d'interaction, le mode voix et le mode texte, et il a aussi la capacité de voir ce qu'il y a autour de lui. Donc je vais activer la caméra, donc là tu vois François, je vais quasiment prendre une photo.
Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Ne parle pas anglais, hein, c'est pour ça que je vais lui parler anglais.
Voilà, c'est ça.
Can you please describe what you see? Donc là il a pris une photo de toi,
hein. Ouais. Taking a look now. I see an image of a news broadcast studio. There is a man who appears to be a news anchor sitting at a desk and speaking on camera. The desk has the logo Tech and Co. La Quotidienne displayed on it, indicating this is a technology-focused news program. Okay. Donc c'est quand même pas mal là.
Ouais, ça marche pas si mal.
Ça marche pas mal. Il a compris. Alors, qu'on était dans un studio de télé, qu'on parlait de tech.
Techniquement, oui, mais explique-moi à quoi ça sert.
Oui,
vois, je veux dire, à moins...
Alors, pour des personnes...
malvoyantes ?
Absolument, ça... C'est...
Alors, peut-être.
Oui, mais personnes malvoyantes. Mais aujourd'hui,
c'est
tu prends...
C'est un contexte qui est absolument génial. Il y a d'autres applications...
Pour avoir discuté avec des personnes malvoyantes, l'iPhone est un produit formidable.
Oui, il y a déjà beaucoup d'applications.
Qui permet une accessibilité formidable pour eux. Et finalement, tu installes une application d'IA. Aujourd'hui, GPT-4o te permet de faire ça, en fait. De manière très simple aussi.
C'est en réalité... Pourquoi je suis aussi critique? Déjà, le form factor n'est pas génial. Ensuite, pour
il faut une carte SIM en plus à l'intérieur.
Rappelle-nous, l'usage, c'était quoi?
C'était censé remplacer son smartphone.
Voilà.
C'était comme ça qu'il l'avait vendu, pour $200. Donc, plutôt intéressant comme promesse. Le problème, c'est qu'avant de commencer à le prendre en main, réellement, il faut une bonne demi-heure.
une bonne demi-heure pour comprendre les modes d'interaction.
Oui, parce que c'est vrai que ça change de l'usage de nos appareils habituels.
Complètement. Et ensuite, les cas d'usage, pour être très clair, c'est quelques démos un peu rigolotes, comme je l'ai faites ici. Mm-hmm. Ensuite, une fonction, quand on est avec quelqu'un qui ne parle pas une langue...
Oui, de traduction.
De traduction simultanée. Et la possibilité d'enregistrer une conversation et à la fin de récupérer une transcription de la conversation.
Mais voilà. Michel, on parlait d'une killer app qui était Uber, et le fait de pouvoir commander un Uber directement par la voix, oui. C'était un peu l'exemple qui était montré tout le temps en fait, et que voilà, on n'avait plus besoin de prendre son téléphone, de lancer l'appli Uber, que Rabbit faisait tout seul.
Alors c'est le cas aussi avec la musique. Le problème c'est que il a tendance à se tromper. Donc quand vous vous retrouvez avec votre Uber à l'autre bout de Paris, vous êtes bien embêté, et pour pouvoir l'annuler, vous récupérez votre téléphone et vous réutilisez l'application Uber. Non, honnêtement, c'est un produit qui est probablement issu d'un hackathon fait par des jeunes étudiants qui utilisent l'API d'OpenAI. Très bonne API, ceci dit en passant, puisque la partie IA est très efficace. Mm-hmm. C'est ChatGPT. Pour ce qui est de la forme de l'objet et puis des interactions avec l'objet, de l'UX, honnêtement, c'est une jolie démo tout au plus. J'ai utilisé l'application pendant peut-être une dizaine de minutes. Il était chargé à 100%, je suis à 87%. En gros, ouais, à l'usage,
l'autonomie est pas terrible non plus. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des journalistes d'Android Authority qui ont réussi à installer une application Android sur le téléphone qui est celle du Rabbit. Ils expliquent que finalement, c'est une appli Android que tu payes $200.
C'est ça.
Finalement.
Avec un device autour.
Même. Voilà, avec un device autour. Mais bon, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai après le Human Pin qui a été, on va dire, un échec aussi, hein, quand même, rappelons qu'ils sont en vente actuellement. Je ne sais pas s'ils vont arriver à se vendre d'ailleurs. Ouais. Ce truc-là, on ne sait pas trop où ça va aller. C'est vrai que voilà, c'est l'euphorie de ces petits gadgets bourrés d'intelligence artificielle, ça a du mal quand même à décoller, non ?
Alors, oui et non. Enfin, on s'est permis, juste avant d'entrer sur ton plateau, de jouer un peu avec Rabbit et avec la molette, surtout de Rabbit. Ce n'est pas forcément super évident. Hein. J'avoue, il faut quand même avoir...
Mais on n'a plus l'habitude des boutons.
De cette molette. Voilà, on voit la démo là directement. Ouais, honnêtement, on n'est plus habitué à ces gestes-là et je ne sais même pas si on aurait besoin de s'y réhabituer tout court. L'intérêt en tant que tel. Moi, j'ai essayé de lui poser des questions, notamment par écrit, pour voir à quelle rapidité il allait et comment je pouvais le challenger. Je lui ai posé une question rituelle sur « What is ChatGPT ?» C'est quoi ChatGPT pour toi ? Qu'est-ce que tu penses surtout de ChatGPT ? Et il m'a répondu qu'il était une intelligence artificielle qui ne pouvait pas penser. Et ensuite, il me donne une définition de ChatGPT. Par contre, quand je lui demande « What is love ?» C'est quoi l'amour ? C'est très mignon. Il me dit que l'amour est une émotion multifacette, complexe, qui peut prendre bien des formes. C'est trop mignon.
Oh, c'est beau. Voilà. Fred, alors...
Il fait un peu de poésie aussi.
Tu sais qu'il est déjà... Il veut le vendre sur le bon coin. Si tu veux le racheter, tu peux.
Même là, si tu veux...
Ça peut être ceci dit.
Et je pense que tu peux essayer d'avoir une ristourne.
Ah oui. Non, bah écoute, je pense qu'il faut qu'il y ait pas mal d'essais avant de trouver quelque chose. On cherche tous entre guillemets, le remplaçant de l'iPhone. Ouais, parce que moi, je crois beaucoup plus aux lunettes connectées. On a vu l'effet Ray-Ban avec les Ray-Ban Meta. Là, voilà, après, dans tous ces appareils, je pense que de temps en temps, il doit y avoir une ou deux fonctions qui doivent être sympas pour intégrer un iPhone, pour intégrer à son écran de voiture, peut-être que pour en vélo, tu vois, ça peut être sympa plutôt que d'avoir son iPhone. Il y a peut-être des petites applications comme ça, mais pour l'instant voilà, on s'est un peu vite emballé. Au CES on l'avait pas vu, hein, tout le monde en parlait. Mais voilà, l'iPhone est tellement puissant en plus maintenant qu'il va intégrer, enfin qu'il intègre déjà ChatGPT, enfin à travers l'application que l'on charge, enfin l'iPhone ou n'importe quel smartphone, hein, la traduction, tout ça sur les Google, les Pixel, les Android, etc. Faut vraiment que. Alors,
après, je pense que les créateurs de cet objet se sont dit pour qu'on puisse parler de notre logiciel, il va falloir qu'on crée un device. Ce qui a dû leur coûter beaucoup d'argent, mine de rien, parce que ça coûte cher de fabriquer ce type de choses, pour peut-être après aller charmer Apple, à charmer Google. Google, c'est compliqué parce qu'ils sont au cœur de l'IA, mais en tous les cas, implémenter Rabbit directement dans un téléphone. C'est peut-être ça leur coup d'après. Mais je me demande si ça ne les dessert pas au lieu de les avantager.
Ils ont pensé à un concept qu'ils ont appelé Large Action Model, qui est un Large Language Model qui...
avait vocation à transformer la relation avec l'IA de sorte à ce qu'elle puisse agir, être un agent intelligent, se connecter à un écosystème d'applications. Sauf que la promesse, c'est pas du tout. La première promesse, c'était de dire ça va remplacer votre iPhone. En réalité, c'est plutôt l'iPhone qui va remplacer le R1. Hein.
Mais oui, bien sûr.
Donc, non, honnêtement.
On laisse tomber.
J'aurais pas dû l'acheter.
On passe à autre chose. Mais tu sais quoi ? Peut-être que dans quelques années, ce truc-là deviendra collector.
Mais bien sûr, c'est collector.
Et aura une bonne place dans ton petit musée de la tech.
Mais tu vois, peut-être dans l'usage. Hein. Je parlais des voitures tout à l'heure. Peut-être pour. On parlait des handicapés. Peut-être pour sur un fauteuil roulant, voilà, avoir un appareil comme ça qui te donne quelques applis un peu basiques. Et d'avoir ça, ton petit écran là.
Pourquoi pas. L'écran quand même, pour ce type du coup d'interaction là, l'écran est quand même très petit et le clavier tactile qui s'active est minuscule.
Je demande s'il n'est pas aussi grand que la Watch.
Non. Laquelle ?
Non, c'est plus.
C'est l'Apple. Plus... Ah non.
Non, l'écran est
deux
plus
fois plus grand. Quand même. Deux fois plus grand. Mais ça en revanche, c'est vraiment un form factor à mon avis qui pourrait effectivement remplacer ça. Les prochaines versions probablement des Watch d'Apple pourraient avoir ce type de fonctionnalité qui remplacerait l'iPin et qui pourrait remplacer le R1. Ça, j'en suis assez convaincu. Ouais.
Voilà. Possesseur un peu déçu de cet appareil, Michel.
En tout cas, merci d'avoir fait une démo, mais en même temps, voilà.
Ta démo était convaincante, mais comme je dis, vous téléchargez l'appli ChatGPT sur votre téléphone, et vous lancez la photo.
Vous donnez à des enfants et les laisser jouer avec et voir ce qu'ils
vont faire. Pour voir ce qui
va se passer.
Ouais, et puis en plus, comme il parle anglais, au moins,
il améliorera son anglais. C'est
plutôt pas mal.
Il ne parle qu'anglais. Enfin, non, il traduit en français, mais il ne comprend pas.
Sa langue natale est anglaise, en fait. C'est ça qui est dommage. Tiens, puisqu'on parle d'électronique qui parle, on va y rester avec Alexa. Alexa qui, vous le savez, a un résultat assez mitigé au sein d'Amazon. Parce que Alexa a été lancée en grande pompe il y a une dizaine d'années. D'abord aux États-Unis, après c'est arrivé un peu partout dans le monde. C'est l'assistant vocal d'Amazon qui vous permet, vous le savez peut-être si vous l'avez testé ou si des amis proches l'utilisent, de commander votre maison, de demander de poser des questions basiques en fait à Alexa qui vous répond, etc., etc. Sauf que, il faut faire évoluer Alexa parce qu'Alexa aujourd'hui est totalement devenue stupide par rapport aux IA génératives que l'on côtoie. Amazon est au courant du problème et Amazon est en train de travailler sur un Alexa boosté à l'IA générative qui lui permettra d'avoir, on va dire, des discussions un petit peu plus pertinentes que celles qu'on peut avoir aujourd'hui avec lui. Le souci, c'est que tout ça coûte très cher et on sent que Amazon est un peu embêté avec Alexa parce que d'un côté, Alexa, ça coûte énormément d'argent. Ils ont perdu des milliards et des milliards avec un truc qui ne leur apporte rien. Parce que au départ, la stratégie d'Amazon, c'était que avec Alexa, on puisse commander des produits sur Amazon. Mm-hmm. Le seul problème, c'est que personne ne le fait. Et il y a eu des investissements colossaux dans toutes les enceintes connectées, enfin tous les échos chauds, des échos avec des écrans. Enfin bref, ça a coûté des milliards ce truc-là. Et aujourd'hui, Amazon se pose la question, je pense, est-ce qu'il faut qu'on continue avec Alexa ? Et certains disent que cette IA boostée à l'IA générative serait la dernière chance pour relancer Alexa. Le problème,
c'est que ça coûterait
de l'argent. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on donne entre 5 et 10 dollars par mois pour pouvoir passer un Alexa intelligent.
Alors, il faut se souvenir que Amazon Echo et son IA, parce qu'en fait, le device, c'est Amazon Echo, l'IA, c'est Alexa, ont été lancés en 2014. En 2014, l'idée incroyable des ingénieurs de Jeff Bezos et de Jeff Bezos lui-même, c'est de dire, on va faire Star Trek. Ces assistants vocaux, ça va être cette commande qui va me permettre de tout gérer de la maison aux achats, en passant par le fait de le plugger sur plein d'autres appareils.
Et c'était un nouveau cheval de Troie dans la cuisine, dans le salon, qui nous donnait accès à Amazon.
Alors, oui, et c'était du coup aussi derrière, pour pouvoir monétiser, un formidable outil pour pouvoir faire des partenariats avec des marques.
Et oui.
Il y a quand même un petit peu ça à un moment donné. Comment est-ce que tu récupères les billes que tu as mis en R&D pour pouvoir développer ces assistants vocaux et leur donner une incarnation, fût-elle vraiment celle de ce petit plot écho, mais surtout d'une voix comme celle d'Alexa. On se souvient des épisodes qui ont été plus ou moins drôles, avec parfois des Alexa qui se mettaient à rire avec des rires diaboliques en plein milieu de la nuit. C'est ce qui était quand même très drôle. Les petite
ça doit faire flipper ça quand même.
Ça faisait que ça
tournait avec ça qui rigole.
Ça m'est jamais arrivé, mais ça fait comme ça. J'imagine la peur que ça peut te faire en milieu de la nuit avec un rayon démoniaque. On se souvient aussi quand même des
petites affaires. Ça permet de résoudre des enquêtes de police.
Aussi.
C'est vrai.
Et Alexa a été. Et je pense que c'est toujours le cas dans certaines cours américaines, en effet, locales et de certains États, où Alexa peut être gardée comme une preuve, en effet, en matière pénale et en matière de meurtre.
Ce qui pose des questions aussi concernant la vie privée, parce qu'on dit alors, ce micro qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait ?
Il y a eu aussi quand même des petits scandales de privacy et de data chez certains ingés qui visiblement s'amusaient un petit peu avec les jeux de données. Mais ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est qu'en effet, comment est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, Star Trek n'est pas arrivé, puisqu'on voulait vraiment que ça devienne le moteur central, la commande centrale de l'intégralité de ta vie, c'est pas le cas. Finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est utilisé pour des fonctionnalités très basiques, très simples, change de radio, éteint la lumière, whatever. Mais comment est-ce que du coup, on va vers une version augmentée qui s'appellerait Remarkable Alexa, Alexa remarquable. Sauf que ça va te coûter entre 5 et 10 dollars par mois pour pouvoir le faire sur une application qui au départ est totalement gratuite. Est-ce qu'on va avoir des utilisateurs
qui vont avoir à donner 5 dollars par mois pour avoir un Alexa dont on se sert, enfin je sais pas
mais même si tu t'en sers plus, t'as pas envie de payer, tu dis moi la nécessité d'un service payant en plus de tout ça, en plus pour monétiser, je sais pas, Air France pour commander des billets, alors j'ai un Alexa moins cher, qu'est-ce que je vais dire, vous donnez juste les horaires d'avion et puis l'autre il aura par contre vous pouvez acheter les billets, enfin tu vois le type de service on a, enfin l'expérience utilisateur elle est complètement décevante, c'est-à-dire tiens si j'avais eu la version payante peut-être que j'aurais eu encore plus d'informations, enfin tu vas poser une question historique, est-ce qu'il va s'arrêter juste le roi est né en telle année et il est mort en telle année, puis si tu as le payant alors là on te racontera tout le Wikipédia,
sachant qu'en plus ces marques-là et ces services ont déjà commencé à développer leurs propres assistants IA ou leurs propres chatbots qui font strictement la même chose et sur lesquels ils n'ont pas de questions, tu as raison, en termes de business model, à savoir comment se partager les bénéfices.
Après, ça peut-être être par compétence. On va dire, tiens, si vous voulez vraiment avoir un truc puissant pour vous aider sur des maths pour les enfants, pour vous aider sur vraiment des...
Mais Fred, encore une fois, tu as ChatGPT.
Mais voilà, c'est
je veux dire, encore une fois, ça, c'est, quel est l'intérêt, Michel ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense qu'on a dépensé pas mal d'argent pour acheter des Google Home avec des fonctionnalités quand même qui étaient très limitées.
Après, tu l'avais gratuitement souvent, tu achetais un truc, on te donnait...
Ouais.
Oui. Ces produits ont été beaucoup subventionnés. D'ailleurs, même les produits Alexa. Sur Amazon, il y a toujours des promos.
Beaucoup de Google Home qui sont partis dans le marché. Il y a eu beaucoup de Google Home dans toutes les maisons américaines et européennes. Et je pense qu'il y a aussi une certaine habitude qui s'est installée et on attend. Moi, je sais que j'ai des Google Home à la maison. J'attends de pouvoir dialoguer avec, comme je dialogue potentiellement avec ChatGPT. La raison pour laquelle ils mettent à 5 ou 10 dollars, c'est que ça coûte extrêmement cher en termes de ressources, parce qu'il faut faire tourner des serveurs, etc. Je me dis que si jamais l'abonnement est intégré dans un Amazon Prime, par exemple, s'il est packagé, même manière qu'il est packagé pour Google, tu vois, peut-être qu'à ce moment-là, l'Alexa qui sera vendu pour les abonnés...
Mais tu vois une Alexa de vitesse ?
Mais visiblement, il ne fera pas partie du package Prime, c'est-à-dire que c'est une option supplémentaire.
Mais dans le package ou pas ?
Non, il serait pas dans le package Prime.
C'est bizarre parce que effectivement, le proposer dans un package qui passe un petit peu parmi les différentes fonctionnalités que tu peux avoir, les différents services, ça peut le faire, tu vois.
Mais t'as pas le vendre comme ça. T'imagines pour un client de te dire alors il y a un nouveau service Alexa, ah super, c'est 5 dollars. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, la politique commerciale un peu agressive.
Alors déjà, on est obligé de payer à tous les étages.
Sur la question du pricing et pour le futur abonné ou pas, c'est CNBC qui a essayé de faire le calcul et on en revient à 0,2$ par requête sur Alexa.
C'est phénoménal.
Bien sûr.
Après, moi, ça me fait quand même me poser une vraie question sur le LLM développé par Amazon qui est Titan. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire réellement ? C'est-à-dire que j'ai toujours pas compris si Alexa a été pluggée sur Titan ou pas. Enfin, c'est cette Remarkable Alexa, si elle va être pluggée sur Titan ou pas, et qu'elles vont être vraiment... Est-ce que ça peut servir aussi un petit peu de vitrine, un petit peu de showcase à ce que peut faire le LLM d'Amazon ? Honnêtement, je n'en sais strictement rien.
Mais s'il est payant, la vitrine, ça ne va pas être terrible, quoi.
t'auras un Amazon, un Alexa pour les riches, puis pour les moins riches.
C'est ça, t'auras un Alexa à deux vitesses. On termine, puisqu'il nous reste un peu plus de 3 minutes, sur une autre news très intéressante, c'est la mise à jour de Starlink, qui s'appelle Starlink Mini, qui est très intéressante. Starlink, rappelons-le, constellation de plusieurs milliers de satellites qui vous permet de vous connecter à peu près n'importe où sur le globe, avec des connexions à faible latence et des débits quand même assez importants. Là, une nouvelle version sort, avec une plus petite antenne, beaucoup plus légère, quelque chose qui peut se brancher sur une batterie, vous pouvez emporter dans votre sac à dos, à droite, à gauche, etc. Alors, les débits sont plus bas, mais ça vous permet d'avoir une connexion haut débit quand même de 100 mégas n'importe où. Imaginez, vous faites du camping, vous êtes en pleine montagne, ben voilà, vous avez une connexion Internet possible.
C'est impressionnant la manière dont Musk a déployé Starlink. Moi, je suis un utilisateur de Starlink dans une zone reculée.
Où tu n'as pas de France, fibre pas de, et d'ADSL.
Non, j'ai de la fibre, mais je n'avais pas de fibre. Pendant 2 ans, Starlink a vraiment sauvé mon télétravail.
Bien sûr. Ouais.
Là, l'offre est à $600, je crois que c'est $30 par mois. Et c'est limité à 60 gigas en termes de data. Mais ce qui est assez génial, si on se projette dans les 3 ou 4 prochaines années, vu la manière dont ils arrivent à miniaturiser et à rendre mobiles ces antennes, c'est de se demander si demain, Musk n'a pas en tête de sortir un device mobile.
Mais alors, tu sais que là, il est en train de sortir de nouveaux satellites qui permettent de se connecter à ton téléphone et à n'importe quel téléphone, même des téléphones qui sont déjà en service.
Oui, avec une limite, c'est qu'il faut que tu captes.
Ah oui, il faut
capter. J'ai juste un truc par rapport à l'innovation, excuse-moi Marjorie, mais je trouve que là, on parlait tout à l'heure de l'alternative, et là, je me dis, mais nous, Européens, alors tu reçois Kinéis tout à l'heure, mais nous, Européens, qu'est-ce qu'on fabrique, quoi ? On a été les premiers à faire de la télé par satellite, pas les premiers. En tout cas,
on a raté le virage de l'Internet au débit.
Et là, tout d'un coup, on voit Starlink arriver, on va voir Kuiper arriver qui va sortir avec le même style de choses. Nous, alors OneWeb, alors oui, il y a moins de satellites, tout ça, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fabrique, quoi? On est en train de... Parce que là, oui, il y a de l'investissement, mais enfin, Starlink...
On régule, Frédéric,
alors,
on régule.
Et là, moi, je suis sidéré. Et je me dis, mais enfin, tous ceux qui sont dans le satellite, mais comment personne n'a vu venir...
Je vais vous aider à être un tout petit peu moins enthousiaste. Parce que le storytelling muskien est absolument implacable. Mais en réalité, ce que je ne dis pas forcément, c'est que cette version mini... Certes, elle est censée pouvoir te permettre de t'apporter de l'Internet par satellite partout où tu te trouves. En réalité, pas tant que ça, parce que tu peux en effet la porter en camping, mais tu peux pas la mettre sur un bateau, tu peux pas la mettre sur un van, tout simplement parce que pour qu'elle puisse réussir à capter justement la constellation Starlink très très là-haut au-dessus de la stratosphère, il faut que la vitesse... En fait, tu peux pas te déplacer avec à une grande vitesse. Il faut que la vitesse soit relativement lente.
Oui, mais une zone blanche... Tu peux pas...
il faut un système dans... ça existe.
Chez Michel, dans une zone blanche, c'est formidable. Oui. Mais il a déjà Starlink qui lui coûte $100 de moins.
Sa version n'est pas mobile. C'est-à-dire qu'il ne peut pas partir avec et faire du camping.
Mais tu ne peux pas, être en mobilité totale.
Là, tu peux avoir une connexion Internet.
Tous les refuges de montagne.
C'est que dans l'enceinte, dans l'antenne, il y a un répéteur Wi-Fi. En fait, tout est compris. C'est ça qui est fort.
Tous les refuges de montagne, tous les endroits un peu paumés dans la campagne, je ne sais pas où, tu installes un truc comme ça, la petite bergerie, les refuges de montagne, tu penses, tu installes une.
Il va devenir berger.
On a commencé avec les bergers,
pour appeler les moutons, et ça va être super.
Je me fais l'avocat du diable volontairement, mais en l'occurrence, l'offre qui n'est pas encore mise en production, qui est annoncée aux États-Unis et qui est quand même relativement chère, parce qu'au-delà du forfait à $30 par mois, tu as $1 par gigaoctet supplémentaire. C'est déjà déployé par Starlink Mini en Guatemala, en Colombie, dans plein de zones d'Amérique centrale, où c'est beaucoup moins cher, c'est $200 le device.
Ouais.
Et après, la connexion est beaucoup moins chère.
Bon, en tout cas... Une petite avancée pour tous ceux qui sont un peu baroudeurs, et qui leur permettent d'avoir malgré tout une connexion Internet quand il n'y a pas de réseau. C'est quand même assez impressionnant. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débrief passionnant. Merci Marjorie Paillon. Merci à Michel Lévy-Provençal. N'oublie pas ton rabbit, bien évidemment, de peur qu'on te le vole.
Il risque de l'oublier.